France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, nous allons danser le twist avec Zouzou, grande figure des nuits parisiennes des années 60, quand on l'appelait Zouzou la twisteuse. Elle fut la compagne de Brian Jones, l'amie de George Harrison et toujours de Jack Nicholson. Portée au cinéma par Eric Rohmer et Philippe Garrel, Zouzou est avec moi pour évoquer en musique une vie extraordinaire. En fin d'émission spéciale archive avec les amours de Jean-Pierre du fantaisiste Beethoven. Mais tiens, pour une fois, commençons par une note sombre et néanmoins poétique. En compagnie de Damia.
Nous sommes maîtres de la terre, nous nous croyons des presque dieux, et pan, le nez dans la poussière, qu'est-ce que nous sommes, des Pouilleux. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent, tournent sur nous et crient au fou, au fou. Nous nageons tous dans la bêtise et l'on invente des drapeaux. On met des couleurs aux chemises, sous la chemise. Il y a la peau. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent, tournent sur nous et crient au fou, au fou. Écoutez le monde en folie, vive la mort, vive la faim, pas un ne crie, vive la vie, nous sommes tous assassins. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent, tournent sur nous et crient au fou, au fou. C'est toute la terre qui gronde, bonne saison pour les volcans. On va faire sauter le monde, cramponnez-vous. Tout fout le camp. Et là-haut, les corbeaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent comme des fous et crient à nous, la vie pourrait être si belle si l'on voulait vivre d'abord. Pourquoi se creuser la cervelle quand il y a du bon soleil dehors?
Une chanson extraordinaire sur les paroles de Raymond Asseau, musique de Robert Jouel, 15 mai 1939. Il y a la voix de Damia, il y a l'orchestre de Valberg, ça s'appelle Tout fout le camp. C'est très poétique, comme toute l'œuvre, si on peut dire, de Damia, aussi bien sur scène qu'au disque. Et si j'ai voulu commencer par cette chanson, c'est parce que vous pourrez voir demain sur Arte un documentaire sur Damia de Carole Vrona. Je vous recommande beaucoup de voir ce film, 22 janvier, donc à 17h05, pour retrouver cette grande poétesse de la chanson qu'on avait d'ailleurs évoquée dans cette émission à l'occasion d'une parution de sa biographie. Je crois que ce sont des images à ne pas manquer. Thank you. Et nous voilà repartis allegro avec Joseph Helmesberger dans sa polka française intitulée « À la viennoise ». C'était l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de Laurine Mazel.
Benoît Dutertre. Étonnez-moi Benoît. France Musique.
Mais sans plus attendre, nous allons retrouver mon invitée. Une invitée, je vous l'ai dit, à la vie extraordinaire. À elle seule, elle évoque toutes les nuits parisiennes des années 60 chez Castel et ailleurs. Elle évoque les débuts de la pop musique, notamment parce qu'elle fut la compagne de Brian Jones pendant une longue période. Et puis, elle évoque aussi parfois les dérives plus sombres qui ont suivi les destins de ces années-là. Aujourd'hui, j'accueille une artiste, une actrice, une chanteuse pas comme les autres, Zouzou la Twisteuse.
Attendre trop longtemps. Lorsque l'on te prend la main, ne pas te demander ce que sera demain, car demain, oui demain, tout peut être changé, pas ta faute, n'être que regret si tu n'as pas su en profiter.
Bonjour Zouzou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors là, tout d'un coup, on s'est transporté en 1967.
Oh, à peu près, oui.
Avec ce disque.
Et avec un grand bon.
Avec au clavier un certain Alain Legovic.
Absolument. J'ai découvert très très tard. Hein. J'ai découvert peut-être il y a à peine 10 ans que Alain Legovic était...
Était devenu Alain Chamfort, oui. Quelques et années plus tard.
Voilà, j'ai trouvé une photo de moi dans le studio.
Ah oui.
Où il était au piano, et moi j'étais assise sur le piano, et je me suis dit, mais c'est le même.
Ah, voilà.
Et alors après, je me souviens que j'étais allée au Bataclan, et je me suis trouvée placée à côté de lui. On a rigolé comme des fous, parce qu'il m'a dit, non, c'est pas possible, tu savais pas que c'était moi Alain Chamfort. Ben, je lui ai dit non, moi je t'ai toujours connu... T'appelant Legovic.
Alors ça, d'ailleurs, c'était votre deuxième 45 tours.
Oui.
Fait un petit peu comme le premier sous la houlette de Jacques Dutronc, Jacques Wolfson.
Si, Wolfson, qui avait un fusil dans son truc.
Ah bon?
Qui tirait pas sur les musiciens, mais en l'air, quand il faisait des canards.
Ah oui, d'accord.
C'était dingue. Alors, quand il tirait pas, il avait ça, une bouteille d'oxygène à côté de lui, pour... Vous me donnez des problèmes avec mon cœur, il faut que je prenne l'oxygène.
De l'oxygène.
Non, mais c'était juste pour nous faire suer, quoi.
Voilà.
Il était, mais délirant.
Grand producteur, en tout cas, de l'époque.
Oui, hein. Bien sûr.
Et d'ailleurs, on a l'impression, quand on lit votre livre de souvenirs, Zouzou, vous avez un bon souvenir, justement, de ces séances d'enregistrement.
Oh,
c'était pour vous un très beau moment.
Hein. Ah oui, on s'amusait tellement. On me souvient, la Koum Papadé, on a fait ça toute une soirée.
Ouais.
Et des gens se sont plaints dans la rue tellement ça faisait de bruit. Et pourtant, on était dans le studio qui était vraiment bien insonorisé. à 3h du matin.
Mais vous dites aussi, alors que vous n'aimiez pas tellement... Alors moi, c'est drôle parce que je les trouve formidables, les arrangements de Jacques Dangean. Mais à l'époque, vous les aimiez pas trop. Hein, c'est pas ce que vous vouliez.
C'est pas du tout ce que je voulais. Je lui avais expliqué exactement ce que je voulais. Je lui avais fait écouter un truc de Donovan que je trouvais formidable. Et je voulais que ce soit par petites touches. Je voulais...
du folk, quoi.
Voilà. Voilà. Et donc, lui, il m'a foutu des fameuses nappes de violon et de machin. Et ça a défiguré complètement cette chanson qui est très, très jolie, qui s'appelle Young Girl Blues. Il me l'avait offerte pour mon anniversaire. Je trouvais ça vachement gentil. Et donc, voilà, je voulais pas que ça devienne un truc comme ça.
En tout cas, voilà, deux très jolis disques qui sont restés dans les mémoires parce que ça incarne vraiment ce personnage fascinant que vous étiez dans les années 60. Et ces chansons... Elles sont écrites par vous, en général, d'ailleurs.
Les textes, oui. Oui, la musique, c'est souvent du tronc.
Et puis, également, pour celles qu'on vient d'entendre, Jean-Pierre Sabar.
Oui.
Voilà. Mais donc, les paroles, il faut savoir profiter de l'instant, c'était un peu votre philosophie de l'époque.
Exact, oui. Et ça, non, je crois que c'est quasiment ma philosophie. Ouais, permanente, oui.
Oui.
Je veux dire, je ne crois pas que j'ai changé quoi que ce soit à ma philosophie, en tout cas. Mais bon, si vous le dites... Je vous crois.
En tout cas, voilà, deux jolis disques parmi d'autres qu'on va évoquer maintenant. Alors, je propose, pour refaire une partie de ce parcours, qu'on commence par remonter loin dans le temps, dans le quartier de la Bastille, où vous avez passé vos meilleures années. Et nous y voilà dans ce quartier de la Bastille avec Joe Privat, Nuit Blanche. Alors, c'est pas les mêmes Nuits Blanches que les vôtres, Zouzou, celle du Balajo, des Balmusettes, mais vous avez toujours aimé ce quartier. D'ailleurs, vous y vivez toujours.
Hein. Oui, j'y vis toujours. Je suis arrivée à 18 mois dans ce quartier.
Parce que vous êtes née en Algérie.
Oui, absolument. Et mon père était officier. Maman était obligée de mettre un enfant que mon père avait tellement voulu.
Voilà, puis il vous a laissé tomber aussitôt.
Après, ouais. Bon, mais c'est pas très grave.
Mais vous êtes né donc pendant la guerre en Algérie, oui. Et puis très vite monté à Paris, et installé dans ce quartier où vous avez toujours vécu.
C'est-à-dire qu'on avait maman, il devait venir la chercher au bateau qui revenait d'Algérie, et personne. Donc elle s'est dit, bon, on va monter à Paris, voir si l'appartement de fonction de ton père. On est arrivé, tout était nickel, rien n'avait changé, il y avait encore des caisses de trucs de ton père, voilà. Tout était là, donc on s'est installé là.
Voilà.
Et puis c'est tout.
Et puis vous avez été pendant pas mal d'années une enfant plutôt sage, hein ?
Plutôt, oui.
Plutôt une bonne élève ?
Ah oui, non, à l'école, oui. Oui. Ben, j'aimais bien.
Mais très vite, très jeune, adolescente, quoi, vous êtes trouvée embringuée voilà, dans les petites bandes.
Oui, moi je suis.
Et vous avez commencé tout de suite à sortir beaucoup le soir.
Ouais, je suis des gens comme ça.
Il y avait des noms de bandes assez amusants d'ailleurs.
Voilà. Moi, je me souviens que de la bande de la Bastille, c'est tout. Et puis, il y a Johnny, lui, qui avait une bande, je ne sais pas où, dans le.
Il y avait la bande de Tarzan.
Ah, ben ça, c'est que Bastille.
Voilà.
C'était notre grand chef. Tout le monde m'avait cassé les pieds avec ce fameux Tarzan qui était en prison depuis des années, qui allait sortir et tout. Et quand j'ai vu la chose. Ah, my God.
Oui, il n'était pas si impressionnant que ça.
Ah non, il était petit, gras, mais c'est tout. Il n'y avait aucun... Je veux dire, d'abord, il ne parlait pas aux femmes.
Ouais.
Genre, voilà, macho complètement. Mais en dehors de ça, je veux dire, c'est un gros crétin, c'est tout. Quoi.
Et alors, on vous appelait déjà Zouzou, parce que Zouzou, c'était une déformation de Joujou quand vous étiez toute
voilà,
petite. Hein,
exactement.
En fait,
hein, voilà. Je zozotais, donc on m'a...
Votre vrai prénom, c'est Daniel. Hein.
Oui.
Voilà. Mais donc, vous entraînez par ces bandes, vous avez pris l'habitude de sortir de chez vous et puis de vous changer voilà. À l'extérieur pour aller
voilà.
Danser
non,
avec
truc,
vos copains.
Il y avait mon jean, mes trucs, tout ce qu'il fallait. Et j'allais dans un café, je me changeais. La patronne et le patron du café, ça allait, faisait mourir de rire de me voir rentrer en petite jupette pour aller à l'école et ressortir des toilettes avec mon jean et tout, et d'aller direct à la fête. Après, c'était carrément, ils m'attendaient, quoi, je veux dire, ils savaient que tous les matins, vers même heure, voilà. Et ça les intriguait vraiment au début.
Et les premiers endroits où vous avez dansé, c'était où alors ?
Un peu à la Bastille, justement, parce que c'était ça le but. Il y avait des autoscooters. À l'époque, j'étais toujours là-dessus parce qu'il y avait des super disques qui passaient et que les nanas dansaient, voilà, voilà. S'éclataient, dansaient n'importe comment, mais c'était très marrant. Donc voilà, et puis après... Ben,
et puis vite, vous avez pris le chemin de Saint-Germain-des-Prés, quoi.
Voilà.
Voilà.
C'est mon amie Natacha qui m'a traînée à Saint-Germain-des-Prés et c'était elle qui prenait soin de moi. Elle m'avait entraînée...
Vous protégez,
ah oui, complètement, ouais, voilà. Je veux dire... Tout ce qui aurait pu m'arriver, ça serait d'abord arrivé à elle et à moi ensuite. Parce que...
Et c'est comme ça que vous êtes devenu assez rapidement voilà, une figure de la nuit, des boîtes de nuit. Et ce qu'on dansait dans les boîtes de nuit, ce qu'on commençait à danser à ce moment-là, vers 59-60, c'était le twist.
Venez les copains, tapez les mains, oui, on va faire le twist. C'est le nouveau rock, rien n'y résiste. N'hésitons pas, faites comme moi, j'y vais bien même pas. Rythme le twist, ouais. Dans le voilà la main là. Et tu t'y prends bien. Continue comme ça. Un tour autour de moi. Balance encore tes bras. Et bien sur mon cœur. Et rythme le twist. Yeah. Un tour de Yeah, entre tes bras, ouais, mon cœur va pour toi. Yeah, twist, twist, twist. Twist, baby. Rythme de twist, ouais, donne-moi la main là. Yeah, tu t'y prends bien, continue comme ça. À tour autour de moi, balance encore tes bras, et bien sûr mon cœur, et rythme le twist, et à tour le bras, oui, tourne bien encore, oui, en dansant, n'oublie pas, n'oublie pas que je suis là, tout en rythmant le twist, et c'est ça. Le twist, bras après tes mains, ouais, brûle la piste, c'est mieux que bien.
Et voilà Johnny en plein twist aujourd'hui avec Zouzou. Alors c'était un de vos copains, Johnny, on va en reparler d'ailleurs.
Oui. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, voilà. Qui n'était pas une star et qui est devenu une star.
Qui est devenu une star.
Que j'ai plus revu depuis des années.
Et on dansait donc le twist dans les nuits, notamment chez Régine, rue du Four. Oui. Alors vous y passiez toutes vos nuits. Votre mère ne disait rien.
Maman, elle ne disait rien du moment qu'on m'accompagnait, voilà. Qu'on me ramenait.
À la maison, d'accord.
Voilà. Donc elle pensait que j'étais suffisamment...
Sérieuse.
En tout cas pour me retrouver dans des galères infernales, quoi. Et à Paris, c'est vrai que j'avais que des gens, Lukovic, tous les gens de match... m'adorait.
Voilà, parce que très très vite, dans ces clubs, vous devenez un personnage, qu'on repère. Vous aviez un physique un peu particulier, on est toujours un petit peu androgyne, comme ça.
Absolument.
Ça plaisait beaucoup à tout le monde.
Exact, je me demandais vraiment pourquoi, et c'est vrai que pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi...
Voilà, et c'est comme ça que notamment les gens de Paris Match, vous photographiant pour un reportage sur le twist, ils cherchent une légende, Jean-Pierre Demukovic et d'autres.
À 2h du matin.
Et puis ils disent, on va l'appeler Zouzou la twisteuse.
Voilà. Ils ne savaient pas quoi faire, donc ils se sont dit, mais si, attends, on va faire. Si Toulouse-Lautrec l'avait connue, il l'aurait peinte sous le nom de Zouzou la twisteuse.
Voilà,
ils avaient leur titre, ils étaient contents, ils ont foncé rue du Four. Et voilà ce qu'il m'a raconté.
Alors dans la bande, il y avait aussi Pierre Bénichoux, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps.
Bénichoux a fait une sublime préface.
À votre livre, absolument. Ouais. Il y avait aussi un tout jeune homme qui est tombé amoureux de vous tout de suite, qui s'appelait Jean-Paul Goud.
Mais lui, il avait besoin de travailler parce qu'il avait besoin de se prouver qu'il pouvait vraiment être un grand.
Ouais.
Et ce qu'il est devenu. Mais à cette époque, je veux dire... C'était mon petit ami, mais c'était très platonique. Hein, c'était, et puis après, je veux dire, ça a été mon premier amour.
Oui, vous avez assez vite laissé tomber quand même.
Quand même pas si vite que ça.
Ah ouais, d'accord.
Non, le problème c'était que, je veux dire, moi j'allais chez Castel et lui ça le faisait suer que j'aille.
Ah voilà, c'est ça, c'était un garçon sérieux quoi.
Ah oui, lui, voilà. Mais moi je pouvais pas le regarder dessiner pendant des heures et rien faire.
À l'époque, vous commencez d'ailleurs aussi donc une carrière de mannequin.
Oui.
Saint-Laurent vous adore, mais Pierre Berger trouve que vous n'êtes pas assez sérieuse.
Absolument.
Il fait même installer une pointeuse parce que j'ai découvert dans votre livre que quand on était mannequin cabine, on devait être toute la journée sur place avec des horaires de bureau.
Pas, avec des horaires complètement. Il faut aller arriver à 8h30.
Ouais.
Moi, je sortais de la Calvados à 8h15. C'était juste à côté. J'allais droit chez Monsieur Saint-Laurent qui me faisait un petit coucou gentil. Je mettais la blouse, mais j'étais au courant de rien.
Vous
c'est les filles qui m'ont
nuit.
Dit voilà, qui m'ont dit, mets ta blouse. Elles m'ont dit, bon, là, t'as pas mis des faux fils, t'as pas mis. J'ai dit, non, mais ça va, je ne mets jamais de fossiles. Tu vas voir si tu es obligé d'en mettre. Et c'est vrai, c'était une torture. Après, par contre, il y avait les transats. Donc, je peux vous dire que j'allais droit dans mon transat avec ma... Et
vous dormiez.
Vers 4 heures, Saint-Laurent me dit, Zouzou, est-ce que vous pourriez venir porter une toile que je la vois sur vous? Je disais, bien sûr. Et j'étais dans le gaz total.
Et voilà. Donc ça n'a pas duré très longtemps.
Berger, non, n'a pas pu supporter ça, c'est normal.
Vous pensiez qu'à faire la fête, vous alliez aussi beaucoup sur la Côte d'Azur avec vos copains.
Oui.
C'est là d'ailleurs où vous avez été victime d'une terrible agression.
Oui, ça c'est
d'un viol, on peut dire.
Ouais.
Et c'est Johnny et Carlos, son copain, qui vous ont un petit peu sauvé de cette malheureuse rencontre
situation. C'est pas qu'ils m'aient sauvé, c'est que ces gens-là, me connaissant, j'habitais chez ma tante et mon cousin. Donc j'étais venue en vacances, j'avais passé mon bac, j'étais très contente. Et ces gens-là, c'était des homosexuels qui revenaient de la guerre d'Algérie.
Qui étaient un peu perturbés apparemment.
Plus qu'un peu perturbés, puisqu'ils se sont pris vraiment des grosses peines. Hein. Alors Johnny et Carlos ont fait partie de la bande que mon cousin a réunie.
Pour aller régler leur compte.
Ouais. Et ces imbéciles, ils sont allés tout droit à la police pour porter plainte pour coups et blessures.
Ah oui, donc ils ont...
Et hop, ils ont été serrés comme ça tout de suite. On les a plus revus.
Voilà. Donc en tout cas, voilà, vous passiez des nuits de Paris aux nuits de la Côte d'Azur, et puis à nouveau aux nuits de Paris. Et alors, c'est à ce moment-là qu'est apparue une danse qu'on va écouter maintenant, qui s'appelait la Bostella, dont Édouard Baird, d'ailleurs, a fait un film célèbre il y a quelques années.
Ouais.
Rappelez-nous l'histoire de la Bostella.
La Bostella, un jour, j'arrive et on me dit, Yvan Bostel a créé une danse hier soir.
Il était journaliste aussi à Paris Match.
Je me dis, mon Dieu, mais je... Bostel était grand. Costaud, mais c'était pas un danseur, je veux dire. D'habitude, il dansait jamais. Et là, il était tellement bourré le soir, qu'il me paraît qu'il n'y avait plus personne quasiment chez lui. Et il a fait mettre un truc d'Enrico Macias où il y avait, ça commençait rapide, et un passage lent. Et au passage lent, on devait se tomber par terre.
Voilà.
Donc, voilà, c'est pas très difficile de vite comprendre la danse.
Oui, il y a la partie agitée, la partie où on se vautre vraiment.
Et là, le truc, c'est qu'on s'est vautré un peu trop sur des jeunes filles de bonne famille le samedi soir qui revenaient du, leur fameux.
De leur rallye.
Rallye. Mais elles arrivaient en robe du soir longue. Moi, j'arrivais jamais avec des robes du soir longues. On a fait les pires horreurs, ces Castel.
Alternance de joie et de peine, d'allégresse et de contrition. Marquez bien les temps, rythme cardiaque normal, c'est le premier dans ce drame mimé, dansons la Bostella.
Savez-vous, voyageurs, pourquoi je sors de l'ombre, vous m'avez appelé, me voici, me voilà, oui, vous n'en bouquiez plus, la nuit était trop sombre, c'est fini désormais, dansons la Bostella. Savez-vous dans la ville que l'ivre c'est amer, à pourquoi lui livrer nos fragiles raisons, pourquoi refaire le monde au fond de notre verre, s'il doit recommencer, c'est à chaque saison.
Car on prémit souvent quand son âme est flétrie et corrève sa vie du bout de l'horizon, commencez dans la peine, avec bonheur j'oublie cette nuit consternante, si loin de ma maison.
Savez-vous, voyageurs, pourquoi je sors de l'ombre, vous m'avez appelé, dansons la Bostella, c'est elle qui traverse tous les brouillards de Londres, de Caracas, de Chine et du Guatemala. Il faut abandonner vos danses solitaires, je ne veux plus vous voir de visage froid, buvez un verre de plus et des larmes amères vous laisseront à nous un profil de roi.
Car vous pensez sur moi bien plus que des raisons, cet tavernier infâme, cet homme est un poisson. Car vous pensez sur moi bien plus que des raisons, c'est Rupi Malmaram, que cet homme est un démon.
Savez-vous, voyageur, pourquoi sans de l'ombre vous m'avez appelé, me voici, me voilà, oui, vous n'en bouquiez plus, la nuit était trop sombre, c'est fini désormais.
Et nous voilà replongés dans les nuits de Castel au début des années 60. Quelque chose d'ailleurs, Zouzou, qui m'a beaucoup frappé dans votre livre, parce que moi, peut-être, c'est par ma génération, j'ai toujours eu l'idée que à cette époque-là, les nuits étaient beaucoup plus amusantes à Londres qu'à Paris. Et en fait, on a l'impression, au contraire, que tous vos copains dont on va parler, Beatles et autres, au contraire, ils venaient à Paris pour s'amuser.
Pour s'amuser,
parce que
oui,
les nuits étaient presque plus extravagantes à Paris qu'à Londres.
Mais c'est vrai, d'ailleurs, à Londres, c'était toujours une boîte qui marchait pendant un certain temps. Mais ouais, ce qui était sympa à Londres, c'est qu'il y avait tout le temps plein de boîtes à
ouais,
faire, quoi.
Ouais,
le tour
ouais,
de Londres, et voilà. Mais au niveau de la folie même, je veux dire, on n'avait pas de gens qui inventent une danse où tout le monde se saute dessus pieds joints. Et ça, John Lennon, il venait uniquement pour danser la Bostella.
John Lennon, ouais, avec vous d'ailleurs.
Oui, mais il attendait, on se mettait nous sur les petites barrière là qu'il y avait autour de la pièce de danse, on s'asseyait, on attendait le bon moment et on y allait les pieds joints sur les gens. Alors je peux vous dire qu'il y a eu quelques
quelques
fractures,
blessés.
Quelques blessures et aussi quelques déchirements de robes.
Il faut dire que vous aviez bien commencé avec l'Angleterre, puisque vous avez aussi appris le twist au duc de Windsor.
Absolument. C'était à Biarritz, j'étais invitée, le monsieur ne savait pas le faire. Alors, il m'a demandé de lui apprendre à danser le twist. Je me disais, mais où je suis? Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du monde, vraiment.
Il était très gentil, apparemment.
Et adorable. Très, très gentil. Tout petit, gentil.
Bon, bon ben, donc, dans ces années-là, donc, vous devenez ami avec toute une jeunesse extravagante. Alors, il y a votre ami de l'époque, bon, c'est le tout jeune Michel Tétinger,
bien sûr,
qui va diriger plus tard Salut les copains,
absolument,
etc. Et puis très vite, donc il y a aussi, ben voilà, des musiciens qui viennent d'Angleterre et notamment George Harrison.
Ah oui, George,
qui devient un ami très proche.
Oui. George, quand je l'ai rencontré, c'était quelqu'un de très timide et tout, et on était dans une soirée où c'était moi aussi, je me sentais pas bien.
Ça, c'était à Paris ou à Londres?
Oui, à Paris.
À Paris.
Et donc, les Beatles étaient là, ils avaient, je sais plus où c'était, dans un des grands hôtels où ils étaient descendus. Ça devait être comme d'habitude au George V. Et donc, George, à un moment, m'a vu, sans doute, il a vu que je m'emberdais autant que lui, et est venu vers moi, puis il a commencé à parler, on a parlé de mannequinat, de trucs et tout, et il m'a dit, voilà, il était très amoureux d'une jeune femme à Londres. Et que, est-ce que je la connaissais? Et il me dit Patty Boyd. J'ai dit oui, ben, je comprends que tu sois très amoureux parce que c'est quelqu'un de vraiment adorable. Donc à partir de là, je suis allé régulièrement. Il m'invitait à venir chez eux.
Voilà. Vous êtes même occupé de promener ses parents
oui.
Parfois.
Oh là là, ça a été quelque chose. J'ai même emmené les parents voir la copie Beatles française.
Ah oui, oui, c'est vrai, vous le racontez aussi.
Et vraiment, c'était dément, parce que les parents de George, on aurait dit qu'ils voyaient leurs enfants, là, et que c'était, qu'ils comprenaient pas bien ce décalage.
Ce groupe qui imitait les Beatles.
Exact. Ouais. Et ils avaient en plus les mêmes coiffures. Je veux dire, c'était très, très bizarre pour eux. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que George, c'était quelqu'un de merveilleux. Quand je vivais à Londres avec eux, c'était tous les soirs que, voilà, on allait dîner ensemble, après on a pris un appart sur Londres, Patty et moi, juste pour aller faire de temps en temps quelques travaux de mannequinat.
Voilà, parce que vous faisiez la navette. Ouais. Finalement, vous étiez quand même lancé, connu, vous étiez bien payé, je pense, dans ce que vous faisiez, d'après ce que vous dites, mais en même temps, vous n'aviez pas vraiment de plan de carrière. Pas du tout, même.
Ah non,
hein, rien.
J'ai jamais eu de plan de carrière sur rien.
Voilà.
Eh bien, c'est mon drame. Et ça a été le drame de plein d'autres qui voyaient Jean-Paul, qu'on connaît pas. Il y a un film qui a été fait sur moi, il dit, mais tout le monde était à ses pieds. Elle aurait pu être une grande star et elle s'en foutait complètement.
Ouais. Voilà, elle s'en foutait complètement.
J'étais très contente quand j'ai lu ça.
Néanmoins, eh bien, vous avez quand même fait un premier disque. On en a écouté le second tout à l'heure, mais le premier, donc c'est grâce à Pierre Bénichoux d'ailleurs.
Oui, c'est Pierre qui m'a présenté à Volson.
Voilà. Donc ça pouvait être le début d'une carrière de chanteuse.
Oui, bien sûr que ça aurait pu être. mais entre-temps, je suis partie à Londres avec Brian, il y a eu toutes ces histoires.
Alors ça, on va y venir à Brian Jones, mais on va peut-être écouter la première chanson alors que vous avez enregistrée. D'ailleurs, celle-ci, elle n'est pas de vous. Cette première chanson, elle est d'un dénommé Benjamin, qui était aussi chez Vogue à l'époque.
Absolument.
Et musique de Jacques Dutronc, c'est enregistré en 1966.
Ok.
Thank you.
La première chanson de Zouzou, Il est parti comme il était venu, musique de Jacques Dutronc, qui n'avait pas encore fait ses propres disques, c'est
non,
juste
non,
avant.
C'est Jacques, mais il n'y pensait même pas.
Il n'y pensait pas encore à ce moment-là.
Il a fallu que je dise, parce que c'est Volson qui avait dans un tiroir, dans son bureau, et il me dit, regarde-moi tous ces textes-là, à qui je pourrais les proposer.
Texte de Lanzmann.
Ouais. Et je lui dis, bah, pourquoi tu ne proposes pas à Jacques? Il me dit, mais c'est mon assistant. Je lui dis, ouais, bah, ton assistant a le droit de chanter quand même. Et Jacques l'a fait comme une blague aussi, ouais, veux dire. Ça. Et un triomphe. Donc, voilà.
Votre disque à vous, bon petit succès?
Oui, hein? Mais bon, moi je compte pas les disques, et en plus comme Monsieur Volston m'avait juré que j'étais inscrite à la SACEM, ce qui était un gros, gros, gros mensonge de sa part, donc vraiment, c'est à la SACEM, il me disait, mais on ne vous connaît pas. J'ai dit, écoute, prenez un disque de Dutronc dans les années 60, n'importe lequel, et vous allez voir que... Prenez des disques avec Zouzou Dutronc, vous allez voir.
Ouais.
Et ils se sont excusés en me disant ouais.
En tout cas, voilà, les nuits continuent. Vous êtes donc très, très copine de George Harrison. Même quand vous partez d'ailleurs avec sa femme en vacances,
oui.
Alors il vous roule les pétards avant de partir, hein,
oui.
pour le
ah
séjour.
Oui, pour que ce soit nickel.
Lui-même.
Ouais, ouais.
Hein?
Il nous roule ça nickel. Il nous met tout dans une boîte de Tampax. C'est
voilà.
Très chic.
Et un jour, même à Saint-Tropez, il y a deux policiers qui.
Deux CRS. qui nous arrêtent et qui nous disent. Vous avez une pièce d'identité sur vous? On leur dit non. À 1h du matin, on ne pense pas à se mettre sa pièce d'identité sur soi. Surtout dans un endroit comme Saint-Tropez qui était hors saison. Alors
ouais,
bon.
Ouais.
Et il y en a un qui me dit, mais ça sent une drôle d'odeur ce que vous fumez. Je lui dis, ben oui, c'est du tabac turc.
Du tabac turc.
Alors le tabac turc, Dieu seul sait, mais ça l'a. Et je lui dis, vous en voulez une? Alors, je lui en offre une. On repasse à 1h30
après. Les CRS
après.
Partent avec leur
oui,
tabac
oui, oui.
turc,
ouais.
roulé par George Harrison
ouais.
avant les vacances.
Et qu'ils ne savent pas, en plus, ils ne savent même pas ce qu'ils fument. Et donc, 1h30 après, disons, on a été allé chez Guylaine, c'était le seul club qu'il y avait. Et on repasse par le bord de mer. Et on les voit tous les deux assis. Mais
les deux CRS regardant l'horizon.
Ouais, l'horizon. Plus question de demander les papiers à qui que ce soit. Je veux dire, fasciné et tout. Et le lendemain soir, j'arrive chez Guylaine. Et tout le monde se jette sur moi en me disant, Zouzou, Zouzou, il y a les CRS qui te cherchent. Ils te cherchent, ils te cherchent. Je dis, ouais, bon, ils me cherchent pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils me disent, non, ils te cherchent, ils sont contents. Ils voudraient que tu leur donnes d'autres cigarettes.
De tabac turc, voilà.
De tabac turc, c'est tout. C'était incroyable.
Alors, avec George Harrison et sa femme, celle-là, c'était des relations amicales encore à peu près raisonnables. C'était,
c'était plutôt...
Tout ça était très bien. Mais par contre, avec Brian Jones, qui est devenu votre petit ami, c'était beaucoup plus fou et beaucoup plus compliqué.
Ah oui, c'est sûr, mais un était beaucoup plus calme que l'autre, je veux dire.
Brian Jones, vous l'avez rencontré aussi au cours d'une soirée,
au Bill Bokeh. Bill Bokeh, où je dînais avec Tétinger, Bénière.
Il vous a repéré tout de suite.
Oui, alors,
parce que tout d'un coup, on dit, il y a les Stones qui arrivent.
Ouais,
ils allaient faire leur premier concert à Paris.
Voilà, moi, j'en avais rien à faire. Je savais que Tétinger avait pris des places. Donc, quand ils m'ont dit, ils sont là, j'ai dit, je m'en fous complètement. Et l'autre,
Brian,
fou dangereux, oui.
Le petit blond.
Ouais, le petit poids de chaume, là, vient vers moi et me dit, je voudrais votre pullover. Je voudrais... Je lui dis, attendez, là, c'est ce que vous me faites comme plan. Je lui dis, votre pullover, il est en stretch, un genre de truc qu'on met, on transpire, on pue, c'est une horreur. Et je lui dis, le mien, par contre, c'est du cachemire. Alors je lui dis, je vais vous donner une adresse, Westaway and Westaway, face au musée de Londres. Bon. Et je lui dis, vous ne pouvez pas ne pas le trouver parce que tous les cachemires les plus beaux sont dans cette boutique. Voilà. Et finalement, il m'a piqué mon pull et il m'a donné cette horreur qu'il avait sur toutes les pochettes du début. Il a toujours cette espèce de col roulé blanc. Et en plus, comme je veux dire, en tournée, ce genre de truc, ça salit. Il faut le laver tous les jours et tout. Non.
Et c'est ainsi que commence donc une aventure qui allait durer assez longtemps Brian Jones, entre Paris et Londres.
Oui. Ouais.
Mais au gré de ses fantaisies un peu délirantes. D'abord, il était très jaloux.
C'était rien de dire.
Ouais.
Je veux dire. Il était capable d'inventer des histoires, mais hallucinantes. juste par jalousie. Il faisait des tests pour savoir. Il mettait les plus laids chauffeurs.
Des chauffeurs hideux.
Hideux, hideux. Il m'avait fait garder par un mec qui avait pété les plombs, qui était un cinglé, qui avait rêvé qu'il fallait qu'il me tue avec 25 coups de couteau dans le dos. Quand il m'a dit ça, j'ai dit ok, j'ai appelé Brian. Je lui ai dit, faut le virer tout de suite, parce que le mec, il est à l'ouest.
Il détruisait toutes les chambres d'hôtel où il se trouvait en balançant les matelas par la fenêtre.
Ah oui, ça c'est quand on était sur la Côte d'Azur, au lieu d'être dans des transats, justement. Lui, il trouvait qu'un bon matelas, c'était 10 fois mieux. Donc, comme on était au premier étage, il passait le matelas par la fenêtre, et voilà. Et il buvait en plein cagnard, en plein soleil, des boissons...
Avec en plus des petites pastilles.
Avec plus des petites pastilles, plus tout le reste, enfin.
Il vous racontait qu'une fois, il part pour un voyage, il a une malle remplie de sabots de bois et de caoué jaune.
Ouais, non, c'est-à-dire qu'on revient de Suède. C'est un des trucs où je suis allé parce que je ne connaissais pas bien. Donc on arrive à Malmö, en fait, au bord de la mer. Et Brian, après le concert, je le vois qui tire avec un autre mec qui a une malle énorme. Je lui dis, qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit, t'inquiète, c'est pour nous. D'accord. On arrive à Londres, j'allais avoir un choc formidable. Quoi.
Il allait se trouver dans cette malle extraordinaire.
Avec, voilà. C'est ça, ouais. Il ouvre la malle extraordinaire et je vois au moins 150 cirés jaunes et 200 paires de chaussures immétables, en bois immétables. Je lui dis, mais t'es frappé, hein, c'est vraiment complètement cinglé. Il me dit, pourquoi? Ben, je lui dis, à qui tu veux donner ça? Il me dit, attends, je vais les vendre. Alors j'ai dit, bah écoute, hein, je te souhaite beaucoup de courage, parce que je ne vois pas autour de nous qui va venir acheter ça.
Avec Bob Dylan, la rencontre a été beaucoup plus brève, beaucoup plus étrange, mais très douce.
Formidable, oui.
Hein, à l'hôtel George V,
absolument.
Vous avez passé toute une nuit ensemble.
Toute une nuit, 5 jours et 5 nuits.
5 jours et 5 nuits à
tout
parler.
Tout le temps où il est resté à Paris, je l'ai vu jour et nuit tout le temps, parce qu'il ne me laissait plus repartir.
Donc, voilà, il avait envie de parler avec vous.
Il avait juste envie de parler. Il venait d'épouser sa femme, dont il me parlait avec vraiment
beaucoup d'amour.
Ouais. Oui. Il disait tout le temps qu'elle lui manquait énormément, mais bon, voilà. Et à part ça, on a écouté toutes les chansons de Blonde on Blonde. Il m'avait montré la photo de Chad Berg, avec qui moi j'avais travaillé. Et vraiment, je veux dire, ça a été 5 jours extraordinaires. Que je n'oublierai jamais.
Nobody feels any pain. Tonight is lasting inside the rain. Everybody knows. Baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman, but she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman, but she breaks just like a little girl. good. It was rain from the first, and I was dying there of thirst, so I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just can't fit? Yes, I believe it's time for us to quit. And when we meet again, introduced as friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Ah, you fake just like a woman. Yes, do you make love just like a woman? Yes, do, then you ache just like a woman. But you break just like a little girl.
Bob Dylan au temps de sa rencontre avec Zouzou, mon invité qui nous raconte sa vie extraordinaire. Ça doit en faire rêver plus d'un. Merci d'être avec nous ce matin, Zouzou, pour évoquer toutes ces années 60. Oui. Alors, l'histoire avec Brian Jones donc, se termine parce que c'est vraiment trop, trop
oui,
compliqué.
Ah oui, un jour, George, il m'a dit, écoute...
George Harrison.
Ouais, il m'a dit... Écoute, on va passer prendre tes vêtements, on va voir si ce fou ce soir va encore se tenir très mal comme d'habitude. Et puis il me dit, surtout toi, c'est ta santé qui est en...
En jeu, oui.
Oui, donc Brian devait partir 15 jours au Maroc, mais pas pour faire des conneries.
Non, pour se désintoxiquer.
Pour se désintoxiquer, ouais. Voilà. Il revient, c'était ce soir-là, il revient, c'est là, il nous retrouve dans l'appart où on était à Londres. Et on le voit arriver rouge, mais comme une tomate. Mais ça, je connaissais, j'avais vu à Saint-Tropez quand on avait jeté les matelas par terre. Je veux dire, je me dis, tu veux nous rouler, quoi. Et je dis rien, quoi. Et puis, à un moment, comme d'habitude, je veux dire, c'était la honte pour moi, parce qu'on allait toujours dîner, il disait toujours qu'il invitait toujours les gens.
Et puis il disparaissait
Et disparaissait ouais. juste avant les au dessert. Ouais. Oui, c'était un grand classique, mais vraiment...
Quand on est un Rolling Stone, a priori qu'on a les moyens.
Ouais, exact. Et oui, il pouvait dépenser n'importe quoi, pour dire des fortunes pour des trucs qui valaient rien, mais je veux dire, il était incapable, donc... Je lui ai dit, va t'arranger, parce qu'il me dit, j'arrive. Il était soi-disant juste arrivé pour l'heure du dîner. Je lui ai dit, va te changer, et puis on se retrouve à tel endroit. Il arrive, et je vois qu'il est toujours tout rouge avec ses cheveux. Hein. Et George me dit, écoute, on va le déposer dans une boîte, on va pas lui dire que t'as besoin de quelque chose, on va passer chez toi. Et tu viens à la campagne chez nous, puis tu te refais une santé. Effectivement, donc c'est ce qui s'est passé. Lui, évidemment, le lendemain, il s'est pointé foudrage, genre qu'est-ce que tu fais sans moi? J'ai dit, j'essaye de me reprendre une vie normale, de manger à des heures normales, de bien dormir, alors que depuis 3 ans, je dors pas, je dors un jour sur 7, et je, voilà. Ouais. Et là, ça a été la rupture.
Voilà. Et alors, il se trouve que, pas longtemps après, vous avez un petit peu eu un nouvel horizon qui s'est ouvert, parce qu'au moment de 68, tout ça, avec la rencontre avec Philippe Garrel.
Ah, Garrel, oui.
Je dirais un nouveau fiancé et puis un cinéaste.
C'est ça.
Le nouveau fiancé, c'était quand même le fils de Jean Villard.
Oui, mais bon.
Vous êtes resté proche jusqu'à aujourd'hui. Hein.
Jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui a produit l'album, alors, mon dernier album.
Stéphane Villard.
Oui.
Et le cinéaste, c'était Philippe
Garrel. Philippe Garrel, absolument. Voilà.
Il lui était à ses débuts et il vous a choisi vraiment pour ses films importants, Marie pour mémoire.
Oui, et puis surtout, je lui ai donné beaucoup de temps avec lui et il m'a fait des coups pendables. Il m'a jamais donné un centime alors qu'il payait les autres. C'est ça qui me mettait hors de moi. Un jour, je lui dis, écoute, ça suffit, tu vois, au moins donne-moi un peu d'argent, quoi, j'en ai besoin. Il me dit, mais enfin, tu es au-dessus de tout ça.
Ah bah oui, c'est incroyable.
Ah sûr, je lui ai dit, bien sûr, je ne mange pas, je ne dors pas, j'ai aucun besoin,
Il y a des choses marrantes quand même. Pour un tournage, après une de vos nuits sans fin, il avait installé un lit dans sa voiture.
Bah, oui, bien sûr. Il vient me chercher à 4 heures du matin, il installe un lit.
Un grand lit, hein,
dans une DS19, tout... impeccable, sachant qu'évidemment je vais m'endormir parce que il avait préparé du chloroforme et des cotons au cas où je viendrais à me réveiller et
parce qu'en fait il vous a dit on va pas loin, il vous a amené à 700 km au bout de la Bretagne.
J'avais dit moi je veux rentrer tous les soirs chez moi. Et donc quand il m'a réveillé, mais je me suis dit mais où on est? Ah ben il m'a dit on est à la pointe du Raz. Je lui dis, c'est quoi, c'est où, c'est combien de kilomètres? Il me dit, 700 et quelques kilomètres. Il me dit, c'est tellement beau, tu vas adorer. Oui, d'accord. Je lui dis, une fois de plus, tu m'as roulé, quoi, c'est tout. Voilà, je suis à la pointe du Raz, je ne peux pas repartir à pied. Je suis foutu pour un mois à tous les coups. Voilà. Et c'est des coups comme ça qu'il me faisait tout le temps.
Bon, ça s'est mieux passé et ça vous a valu un vrai succès avec Éric Rohmer.
Oh ben
L'amour l'après-midi.
Éric, oui, ça a été
un
formidable.
Film important.
Oui.
Ouais. Applaudi, acclamé aux États-Unis.
Exact. Hein. Et vendu. Mon ami Nicholson, qui était là il n'y a pas très très longtemps, me disait, on ne peut plus passer dans un bled sans avoir le coffret complet des 6 contes moraux de Monsieur Rohmer.
Oh, non, parce qu'il faut préciser que oui, dans vos premières années, il y avait un petit bonhomme aussi pas connu du tout non plus, qui était Jack Nicholson. Vous êtes devenu ami et vous l'êtes resté jusqu'à aujourd'hui.
Absolument, hein. Absolument. Je veux dire, c'est vraiment un de mes meilleurs amis, des fidèles amis.
Bon, Rohmer, il vous a payé?
Ah ben oui, quand même. Là, oui. Rohmer a été formidable. Vraiment. Si les producteurs avaient pu ne pas me payer, ils auraient été contents, mais bon, je veux dire, quand même, là, fallait pas exagérer. D'autant que Jack m'avait dit, tu me diras ce qu'ils te donnent, et je discuterai un peu avec eux. Voilà,
c'est comme ça que vous avez retrouvé à New York pour la sortie du film, effectivement, Jack Nicholson.
Absolument.
Et puis pas loin, il y avait Warren Beatty aussi.
Absolument.
Et Marianne Faithfull, qui était votre grande amie aussi.
Oui,
et tous ces gens-là.
Étaient là et j'ai jamais vu une salle aussi réceptive à un film de Rohmer. C'est quand même pas on rit pas toutes les 2 minutes. Les Américains, je me disais, mais ils sont bizarres, vraiment. Pour rigoler pendant tout le film, c'est quand même étrange. Et à la fin, alors le standing ovation, on y a eu droit. Et quand on voit Rohmer descendre les escaliers et dire, on dit, mais je ne pensais pas que les Américains pourraient aimer ça. Ouais. Il y a Jack qui arrive en courant, t'es fou de joie pour moi, quoi.
Bah voilà.
Et Jack m'a dit, te rends compte, j'ai refusé 4 films cette année, les 4 sont nominés aux Oscars. Et il me dit, toi t'en fais un, t'avais 4 salles, t'en as 21 demain. Et il m'a dit, bah bravo, quoi. Hein, pour un premier coup, c'est un coup de maître.
Zouzou, on va faire une petite pause musicale avec un groupe que vous avez choisi, que vous aimez beaucoup. C'était les années 80, hein, ici à Paris.
Oui, absolument.
Voilà, c'était la New Wave à la française. Pourquoi vous avez choisi ce groupe?
Parce que dans ce groupe, il y a des gens avec qui je travaille maintenant.
Voilà.
Et que j'aime beaucoup et qui me suivent.
Et j'adore ce tube de l'époque, dont certains se souviennent, qui s'appelait Stupide Petit Garçon.
Voilà, c'est ça.
pression. Oh stupide petit garçon.
Stupide petit garçon, le groupe ici Paris, vos amis donc,
oui,
Zouzou, vos amis avec qui vous avez encore des projets. Mais on va revenir encore un peu donc à cette époque de la fin des années 60. Alors après donc le succès du film de Romer aux États-Unis, on a l'impression que tout d'un coup toutes les portes du cinéma s'ouvrent hein, parce
oui,
que
mais bon.
Y a eu plein de projets. Vous deviez faire Kiki de Montparnasse par exemple, personnage qui vous ressemblait peut-être un petit peu aussi.
Oui, ça coûtait très cher.
Vous deviez faire un film avec Mick Jagger.
Oui. C'était une idée de Rassam de refaire le film. Il avait en tête de faire la même chose, mais à New York. Et moi, j'aurais été le garçon dans le film. Et Mick Jagger aurait eu le rôle de la fille. C'est-à-dire,
voilà, un remake d'À bout de souffle, hein, très précisément.
Un remake, juste en inversant les...
Voilà, etc., etc. Il y a beaucoup de projets, mais il se trouve aussi que c'est à peu près l'époque où vous commencez à prendre beaucoup de drogue, et notamment de l'héroïne.
Ouais.
Et là, ça va commencer à,
finalement
à perturber tout ce que vous avez envie de faire.
Ça me fout en l'air. Mais bon, je n'ai jamais rien regretté.
Comme Piaf.
Rien regretté. Absolument. Je veux dire, ça y est, je suis en pleine forme depuis longtemps maintenant.
Voilà.
Et donc, voilà, on peut dire que j'ai été loin.
Pendant quelques années, c'est une vraie descente aux enfers.
Absolument, hein. C'est pour ça que je suis parti.
Avec des besoins d'argent énormes, évidemment, parce que ça coûte très cher, vous en prenez beaucoup.
Mon petit ami que j'avais à l'époque me disait, si je faisais un livre, ça serait le SMIC du toxico avec 10 000 par jour.
10 000 par jour,
12,
c'est des francs de l'époque, c'est encore des euros, mais quand même.
Mais quand même, c'était chaud, quoi.
C'était très chaud.
Ouais. On s'est dit non, vaut mieux
c'est
pas
une
le faire.
Catastrophe. Et finalement, vous allez décider de partir aux Antilles.
Voilà. Je décide
pour essayer de,
partir
de, voilà, de refaire votre vie. Quoi.
Et de surtout revenir en pleine forme et voilà. Et
mais ça prend des mois, des années pour se désintoxiquer.
Ben,
c'est horrible.
Ça a pris plus de 2 ans.
Plus de 2 ans où vous mangiez pas, vous dormiez pas.
Pendant 2 ans, je mangeais pas, je dormais pas. J'étais sur la plage dans un manteau de fourrure. Les gens me prenaient pour une cinglée.
Alors, il y a quand même des gens qui vont vous suivre, si j'ose dire, dans l'épreuve amicalement. Je veux dire, y compris dans le monde du showbiz et de la chanson. Il y a notamment France Gall et Michel Berger.
Ah oui, tous les
qui
ans.
Qui sont des amis très fidèles.
Oui, extrêmement.
Même quand ça va
très
mal.
Oui. Quoi qu'il arrive, je veux dire, c'était quoi qu'il arrive, ils venaient, ils étaient là. Et je dois dire que moi, petit à petit aussi, je me suis récupéré et ils ont vu la différence. Tous les ans, ils venaient à la même date et tout. Le problème, c'était que c'est eux qui n'allaient pas bien à cause de leur enfant. C'est normal.
Ouais. Alors après la période des Antilles, d'ailleurs, vous êtes revenu à Paris.
Oui.
Les choses ont repris, mais vous avez replongé un moment, hein.
Oui, mais bon.
Et vous êtes même retrouvé dans le métro à vendre des journaux, vous êtes retrouvé en prison, etc. Ça n'a pas été simple.
Ah non, c'est jamais simple, ce genre de choses. Mais j'avais pas, je veux dire, c'est bien joli, mais arrêter toute seule, c'est pas facile du tout, hein. Quand on n'a pas quelque chose de substitution. J'étais en prison, comme vous dites. Ce qui me fait beaucoup rire, c'est que le jour de ma sortie, le samedi de ma sortie, le lundi, la substitution était en place. J'avais rendez-vous chez un docteur et du coup, j'étais désintoxiqué déjà par la prison.
Oui, évidemment.
Un peu, mais bon. Et après, j'avais un médecin qui allait s'occuper de moi pendant...
Et c'est à ce moment-là que vous situez au fond le renouveau, la renaissance un petit peu.
Oui, pour vous. Ben oui. d'être plus là à se demander comment on va payer ça, où est-ce qu'on va y courir, qui est-ce qui va nous vendre encore de la merde, enfin bref. Je veux dire, non. Et c'est vrai que bon.
Vous aviez en plus, à l'époque où vous preniez beaucoup de drogue, alors vous aviez avec votre ami un côté un petit peu Robin des Bois, c'est-à-dire que vous alliez braquer les dealers.
Ah ouais, mais ça j'adorais.
au moins pas vous attaquer aux faibles, mais ceux qui étaient vos démons d'une certaine façon.
On avait un ami qui nous renseignait quand une autre personne arrivait
d'Inde ou je ne sais où.
De Thaïlande. Et donc. Il nous donnait l'adresse, l'heure à laquelle il serait là, et, bref, et tout. Et nous, on se préparait, donc, moi, j'étais le facteur, je sonnais, le mec venait regarder, je disais, lettre recommandée. Donc, le mec, il ouvrait sa porte en méfiance, et on était trois à rentrer dedans, et après, voilà. À tout piquer, et voilà. Non, on a toujours laissé aux personnes de quoi refaire un voyage et se ramener.
Bon, en tout cas, Zouzou, voilà, les choses sont très romanesques, même si elles sont pas toujours drôles.
Moi, en même temps, ça me fait vachement rien. Avec du recul. Sur le moment, c'est sûr, c'est pas le rôle du tout, mais bon.
Et puis finalement, voilà, la vie a repris, et puis on a commencé à nouveau, au fond, à redécouvrir aussi toute votre histoire. Il y a eu, bon, alors ce livre de souvenirs que vous avez fait en 2003, préfacé par Pierre Bénichoux chez Flammarion, il y a même eu une rétrospective de vos films à Beaubourg.
Oui,
quand même.
Alors là, j'étais absolument stupéfaite. Quand on me l'a dit, j'ai dit, mais comment? Pourquoi moi? Et j'ai eu l'explication, la personne qui faisait cette rétrospective sur moi, c'était la première rétrospective à Beaubourg d'une actrice. Il m'a dit, je fais cette rétrospective, ça me fait très plaisir parce que vous, comme Clémenti, comme Calfon, comme beaucoup d'autres, vous avez été quasiment massacrés. Et c'est vrai qu'il disait qu'on avait vachement de talent, mais que personne n'avait été capable d'avoir les couilles, de s'occuper vraiment de nous. Quoi.
C'est vrai que quand on pense à vos amis, oui, Pierre Clémenti, Tina Aumont ou autres, c'est des destins évidemment aussi terribles. Hein. Une autre chanson que vous avez choisie, Zouzou, pour nous, dites-nous pourquoi, Randy Newman, I Love LA.
Parce que d'abord, Randy Newman, c'est Jack qui me l'a fait connaître.
Jack Nicholson.
Oui, il l'adorait et je trouvais qu'effectivement, moi j'adore aussi. Et donc, je me suis dit, ça, si Jack écoute mon émission de radio...
De France Musique. Jack Nicholson écoute France Musique tous les samedis. Donc, à mon avis, il est là.
En tout cas, je peux toujours
nous entendre.
Je ne sais pas si ça fonctionne, mais en tout cas, je lui dirai que j'ai fait passer Randy Newman et il sera très content. Parce que c'est vrai, c'est un mec qui est bourré de talent.
Rolling down. Highway, the big nasty red out of my side. Santa Ana winds blowing hot from the north. We were born to ride. Roll down the window, put down the top. Crank up the Beach Boys, baby. Don't let the music stop. We gonna ride it till we just can't ride it no more. From the side. Bum over there, man, he's down on his knees. Look at these women, ain't nothing like them nowhere. Century Boulevard,
we love it.
Victory Boulevard,
we love it.
Santa Monica Boulevard,
we love it.
Sixth Street,
we love it.
We love it. We love it.
magique, magique.
Merci
vraiment,
en tout cas pour Randy Newman, Zouzou.
Mais ce qui ne veut pas dire que les autres n'étaient pas magiques, hein, je veux dire. Mais c'est autre chose. Ça, c'est quelque chose, tout d'un coup, d'abord, les gens ne l'écoutent pas tous les jours à la radio, puisqu'ils ne passent pas.
Ouais.
Hein, c'est toujours pareil. Mais regardez Dylan, aux États-Unis, on ne passait pas non plus.
Vous écoutez beaucoup de musique, Zouzou?
Ah,
c'est
oui,
important dans votre vie aujourd'hui?
Oui. Ah, moi, il n'y a que ça qui est important dans ma vie. Alors,
c'est vrai?
Oui. Vraiment, je veux dire, moi, j'adore être en scène et chanter, j'adore... voilà. Mais je ne vous dis pas qu'il n'y a rien d'autre que j'aime. J'aime plein de choses, mais... Pour moi, le moment de grande jouissance, c'est quand je rentre sur scène et que j'ai préparé un truc et que c'est bien, quoi.
Voilà.
La dernière truc, c'était la fête de la musique et c'était avec juste deux musiciens et moi. Et c'était formidable, acoustique. Formidable.
Ouais. C'est pour ça que vous avez eu envie de refaire un disque il y a un an et demi, hein, voilà, Zouzou, en vers libre, voilà.
Ouais.
Titre poétique.
C'est pas moi qui l'ai choisi. J'ai envoyé à Jean-Paul plein de titres.
Jean-Paul Good, hein,
votre
premier. Mais c'est ça que j'adore,
ça,
Zouzou.
Ça fait la boucle, là.
Dans votre histoire, voilà.
Ouais.
C'est qu'il y a. Bon, c'est très romanesque, mais il y a des fidélités comme ça.
Oui.
Il y a votre Stéphane Villard,
qui a été
votre ami, qui est aujourd'hui le producteur de ce disque, mais qui était déjà là donc, dans les années 60, hein, le fils de Jean
67,
Villard.
67, je l'ai connu.
Et puis Jean-Paul Good, qui a été votre premier petit ami.
Mon premier. Et qui.
Et qui aujourd'hui fait des photos et une pochette magnifique pour ce disque qui vient de sortir ou presque. Voilà.
Donc,
l'histoire fabuleuse de Zouzou, la twisteuse.
C'est bien ça. Yeah. L'histoire fabuleuse de Zouzou, la twisteuse.
On va se quitter avec une chanson de votre dernier disque. Peut-être que vous nous dites juste un mot sur ces bonus.
Oui,
ou c'est pas grave.
Alors, c'est bonus ou c'est pas grave est un texte de ce cher Boris Bergman. J'en ai une deuxième de lui sur l'album. Et c'est une chanson qui est, comme toujours, un peu déjantée, mais sympa.
Voilà, déjantée, mais sympa.
Ah ouais.
On pourrait dire ça aussi.
Ouais, ouais.
Merci Zouzou d'avoir été avec nous ce matin.
C'est moi qui vous remercie, c'était très agréable. Très, très agréable. Voilà.
Commencé petit, je me suis très vite pris par la taille. Au détour du plaisir et des petites envies, entrée, sortie, trouver la faille. La nuit dans la poudreuse, une aurore qui patine. On se dit qu'on est diable avait beau s'il pas souvent été clean. J'aurais toujours l'âme slave, touche le fond ou la cime. C'est bonus ou c'est pas, c'est bonus ou c'est pas grave, pas souvent été clean. J'aurais toujours l'âme slave, le pont ou la cime. C'est bonus ou c'est pas, c'est bonus ou c'est pas grave.
C'est bonus ou c'est pas grave, un titre extrait du dernier album de Zouzou, En vers libre, qui est paru chez Naïve. Et puis si vous voulez retrouver en détail la vie de mon invité, eh bien le mieux c'est de lire sa biographie Zouzou jusqu'à l'aube, qui est paru aux éditions Flammarion.
Thank you.
Donizetti, un extrait du ballet de La Favorite, interprété par l'Orchestre Philharmonia sous la direction d'Antonio de Almeida.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Et nous voici donc revenus au monde de l'opéra, du ballet, de l'opérette et de l'opéra comique. Et nous allons y plonger davantage encore avec quelques archives que j'ai gardées pour vous en fin d'émission. D'abord, un personnage que je voudrais faire découvrir à ceux qui ne le connaissent pas encore. Il y a longtemps que j'en ai pas parlé dans cette émission. C'est Beethoven. Beethoven alias Michel Maurice Lévy, un compositeur très sérieux, prix de Rome, qui a écrit des opéras, des oratorios, qui a été joué à l'opéra comique, qui est mort en 1965. Il avait plus de 80 ans. Mais pour gagner sa vie, c'était aussi un extraordinaire fantaisiste musical qui détournait toutes les musiques qu'il connaissait fort bien et il faisait tout lui-même au piano. Il chantait les rôles, il imitait, il pastichait. Et voilà ce disque que nous allons entendre. Ce sont les deux faces d'un 78 tours de la fin des années 20 qui s'appelle Les Amours de Jean-Pierre. Ce sont tous les clichés de l'opéra comique plutôt, entre Weber et Boieldieu qu'on va retrouver là, avec le militaire qui revient de la guerre, avec le chœur des buveurs, avec les petits oiseaux qui dialoguent avec la soprano, tout cela tourné en dérision, mais avec infiniment de savoir-faire par le grand Beethoven.
Les Amours de Jean-Pierre, opéra exagéré en un acte. Quand le rideau lève, c'est le cœur des buveurs, des types qui chantent faux, qui sont sales, et qui font semblant de boire dans des verres qui sont toujours vides. Cœur des buveurs. Plus vos amis, plus bons anneaux, amour. Plus vos amis, plus bons anneaux, maîtresse. Plus vos amis, plus bons anneaux, amour. Plus vos amis, plus bons anneaux, amour. Plus bon, plus bon, plus bon, plus bon. Enverse, verse le vin des amours. Enverse encore, enverse, verse, verse le vin d'image, le vin divin d'amour. Ils choquent leur verre. Premier buveur. Mais comment se fait-il que notre ami Jean-Pierre ne soit pas parmi nous pour boire à ses amours? Le cœur, ben oui, pourquoi n'est-il pas là? Pourquoi n'est-il pas là? Deuxième buveur, toi, Colin, le coiffeur respecté, sais-tu où Jean-Pierre est? Sais-tu où Jean-Pierre est? Colin, il doit revenir bientôt, car il est fiancé. Le cœur, à qui? À qui? Qui nous le donne? Un bicolant, Colin, à la plus blonde, à la plus pure, à la plus jolie des jeunes filles. Le cœur, à qui? À qui? Nous le donne, un bicolant, voilà, à Rosemarie. La fille de Landry, le fermier respecté. Le cœur, la fille de Landry, n'est pas pour lui. Entrée de la mer, pas pour mon fils, pas pour mon gars. Ah, classe lance, ah, trahison les cœurs. Oh, classe lance, oh, trahison la mer. Entendra, aïe, entendons, trahison les cœurs. Entendis-y, entendra, entendons-y, entendis-tra. La mer. Je jure devant le Christ, petite flûte. Devant les cieux immenses, la mer et le tonnerre, la foudre et tout le bazar. Que même si Landry offrait pour mon plat sa fille dans un plat. Aussi vrai, jour de Dieu, que l'on me nomme la sorcière. Je les maudirai tous. Le cœur, jour de deuil, jour d'horreur. Air de la malédiction. La mer s'avance au trou du souffleur en roulant des yeux énormes. Malheur, oui malheur, à tous les lépreux, à tous les véreux, à tous les quinteux. Cœur, malheur, oui malheur, à tous les véreux, à tous les quinteux, à tous les lépreux. La mer, oui malheur, oui malheur, oui malheur, malheur le cœur, oui malheur, oui malheur, oui malheur, oui malheur tous, oui malheur, 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 malheur. Tout le monde sort. Deuxième scène. Entrée de Rosemarie. Elle est grande comme un jour sans fin. Elle a l'air bête, saute plus. Je regarde en l'air pour voir les derniers oisillons s'envoler dans la brise du soir. Sortis les derniers oisillons. Récitatif. Jean-Pierre, mon bien-aimé, mon père si cruel, tu le fais de ma main pour la donner au duc. Mais moi, je ne veux pas du duc. Mais moi, je ne veux pas du duc. Car c'est toi que j'aime, car c'est toi que j'aime. Oh mon Jean-Pierre, oh mon Jean-Pierre. Oh, c'est toi que j'aime, aime. Si
vive à Los Orfatales, je devais épouser le duc sur le plus haut rocher, près de la petite église Sainte-Marguerite. Je monterai et plongerai dans l'immense flot final de l'air. Plutôt la mort que d'être au duc, ma flotte donnait ma voix. Non, pas du duc, non, pas du duc. Plutôt la mort, plutôt la mort. Ah, ah, plutôt la mort, la mort. La mort, 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 là, elle s'en va rigolant. Elle est partie, cœur des bourgeois qui se promènent. Oh, quel beau pays, quel beau temps qu'il fait pour se promener. La belle ville que celle-ci, qu'il fait pour se promener les vents. Qu'il fait pour se promener. Promène. Mais quel malheur! Mais quel malheur, quand ce jour de fête, Jean-Pierre, notre ami, ne soit pas avec nous.
Le cœur, il ne reviendra pas, il ne reviendra pas.
Corps au lointain. Un individu, un choriste, un homme du Nord. N'entendez-vous pas le corps au fond du bois? Le cœur, c'est lui, de sa vaillante chasse. Il revient en vainqueur, entre Jean-Pierre.
Et puis salute-toi, et puis salute-toi, et puis salute-toi, et puis salute-toi, Jean-Pierre.
À mes amis, ça, salut.
Le cœur, as-tu fait bonne chasse? As-tu fait bonne chasse? Dis,
voici la chasse par Jean-Pierre. Parti dès l'aube, le cœur vaillant, armé de mon fusil à deux coups, j'ai saché le poulet désossé. L'ennemi se cachait dans le flanc des montagnes. Mais grâce à mon courage, j'ai su le déloger. À quel plaisir de chasser le poulet, taillot, 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 suce au poulet, en chasse, chasse. Le poulet est énervé, suce et suce et suce, suce au poulet, surexcité.
Le cœur, à mort le poulet, à mort le poulet, à mort le poulet, à mort le poulet. Poulou, 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 poulou,
énervons et mangeons le poulet. Il est faisant des croquets, manger, sucer, pétri, roulé, haché, diminué.
Il en a plus, il est vaincu, il est vaincu.
La mort, mort au poulet.
À mort!
Un messager du duc. Un messager du duc.
Le messager. Peuple, le duc est mort pour avoir trop mangé de cacahuètes. Le cœur jour de deuil, jour d'horreur.
Jean-Pierre s'avançant illuminé. Mais si le duc est mort, j'épouse Rose-Marie. Au jour trois fois heureux, tout le monde rentre comme par enchantement.
Ils sont fiancés, buvons à leur savour. Ils sont fiancés, buvons, buvons à leur savour. Buvons amis, buvons assez, savour. Buvons amis, buvons assez, maîtresse. En verse, 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 verse. Le divin vin d'amour.
Et voilà.
Les Amours de Jean-Pierre ou l'opéra revisité avec beaucoup de fantaisie par Beethoven, alias Michel Maurice Lévy, un disque qui vient de nos précieuses archives de Radio France. Quant à Beethoven, je vous promets, on en reparlera. Et puis, seconde archive pour finir cette émission et pour le plaisir, deux extraits des Petites Michues d'André Messager, une des opérettes que je préfère et qui est malheureusement trop oubliée. Il y avait d'ailleurs un projet qui a couru ces dernières années d'une reprise dans plusieurs maisons d'opéra français. Ça n'a toujours pas abouti. J'espère que ça finira par se faire parce que les Petites Michues, un an avant Véronique, c'est un premier grand chef-d'œuvre de Messager. On est tout à fait dans le ton de Véronique avec d'ailleurs les mêmes librettistes, Vanloo et Duval. Simplement, c'est peut-être un peu plus léger, un peu plus fantaisiste. On va écouter d'abord un duo des Petites Michues avec Gaston, le bel amoureux, et puis ensuite l'autre amoureux, Aristide, plus fantaisiste, qui finit par faire son choix justement entre les deux Petites Michues.
Michu,
Michu, Michu, oui, tel est capitaine, le nom qui nous est dévolu.
Michu,
Michu, Michu, et puisqu'il faut qu'on vous l'apprenne, c'est nous les Petites Michues.
Michu, Michu,
c'est nous les Petites Michues.
Deux sœurs alors,
deux sœurs jumelles.
Le ciel, en vous faisant toutes deux aussi belles, n'a pas voulu sans doute égarer ses faveurs. C'est pour cela, mes demoiselles, qu'il vous a faites sœurs.
Monsieur, monsieur, pas de galanterie.
Et vous, pas de coquetterie, je parle très sincèrement. Il ne pourrait dire vraiment qui de vous est la plus jolie. Elles sont ravissantes, jamais, non, jamais je n'ai vu de jeunes filles plus charmantes que les deux Petites Michues.
Oui, elles sont ravissantes, le nom qui nous est dévolu, et puisque
Partage toutes choses équitablement.
Certainement, évidemment.
Donc, puisque tout est commun à chacune, tout à l'heure, en embrassant l'une, devais-je pas embrasser l'autre aussi? C'est le là comme c'est le ci.
C'est fort logique, très véridique.
Eh bien, alors, j'ai des remords.
Ah, ah, mon capitaine, ne soyez pas en peine. Ce baiser-là, ma sœur me le rendra. Oui, tout s'arrangera comme cela, mon capitaine. Oui, tout s'arrangera comme cela. Ce baiser-là n'est pas perdu. Rien ne se perd chez les Michus. Ce baiser-là n'est pas perdu. Rien ne se perd chez les Michus. Rien ne se perd chez les Michus.
Elles sont ravissantes. Jamais, non, jamais je n'ai vu de jeunes filles plus charmantes que les deux petites Michus.
Se déchaînait, sur moi se déchaînait. Était-ce l'une ou l'autre, problème désastreux, à pauvres amoureux, quelle angoisse est la nôtre. Enfin je suis fixé, le sort s'est prononcé, ivresse qui m'enflamme, enfin je suis fixé, me voilà fiancé. Et je vous ai profane, me voilà fiancé, je suis un fiancé fixé. Maintenant je respire, l'orage s'est calmé. J'aime et je puis me dire que moi je suis aimé, que moi je suis aimé. Je possède, cher ange, le trésor de ton cœur, et je t'offre au bonheur tout le mien en échange. Enfin je suis fixé, le sort s'est prononcé, ivresse qui m'enflamme, enfin je suis fixé, me voilà fiancé, et je vous ai profane, me voilà fiancé, je suis un fiancé fixé.
Et ce fiancé fixé, c'était le ténor léger Claude Devos. Et puis, juste auparavant, la merveilleuse voix de Camille Morane avec Liliane Berton et Nadine Renaud. Deux extraits des Petites Michues d'André Messager, enregistrés en 1954 sous la direction de Jules Gressier. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier avec aujourd'hui à la technique Pierre Mine, réalisation Christine Amado. Et on se retrouve bien sûr samedi prochain, on parlera d'humour et de musique avec mon invité René Koering. Bon week-end à tous.